Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant mort et résurrection de Jésus-Christ. Vérité ou est-ce un mythe ? Aujourd'hui, nous sommes à l'étude numéro 11 et le titre sera « La fonction d'un sceptique converti ». Saint Jean, chapitre 20, versets 29 à 31. On se méprend souvent sur le sens du verset 29. On suppose que Jésus y déclare qu'une foi non fondée sur des signes tangibles ou même sur du vrai est de nature supérieure, comme s'il disait « Thomas, tu as cru maintenant que tu me vois, que tu me vois. » Oui. Tu crois maintenant parce que tu m'as vu. C'est très bien. Mais sache que tous ceux qui croient en moi, sans jamais avoir été témoins des signes qui t'ont été donnés, possèdent une foi beaucoup supérieure à toi. Ils sont véritablement heureux et bénis. Tu as toi-même manqué cette bénédiction tout simplement parce que tu te tenais à vouloir absolument de voir les choses de plus près, de les toucher pour enfin pouvoir croire. Ta foi, dans le meilleur des cas, est vraiment de second ordre. Chers amis, je dois dire avec la plus grande vigueur qu'une telle interprétation est totalement erronée. La raison pour laquelle nous sommes tentés d'interpréter ce verset de cette manière est que, de manière générale, le terme foi dans la culture moderne possède des significations complètement étrangères à celles qu'il revêt dans la Sainte Bible. C'est là le problème. Tout le monde pense que ce que je viens d'expliquer jusqu'à présent, c'est absolument juste. Point barre. Dans notre société, il tend à prendre l'un des deux, on peut dire l'un des deux sens, suivant ce que je vais vous expliquer. Premièrement, il sert de synonyme au mot « religion ». On dit par exemple qu'il y a plusieurs fois plusieurs religions. Deuxièmement, et c'est la signification la plus commune, on comprend la foi comme une sorte de choix ou d'engagement religieux personnel et subjectif. En d'autres termes, la foi n'a rien à voir avec les faits ou avec les réalités de nature historique. C'est un choix religieux, un choix personnel. Vous avez votre foi, et j'ai la mienne. Il est impossible de juger des disparités entre l'une et l'autre, ni de trancher, car il n'existe pas de données factuelles pour établir des points de comparaison sur des bases rationnelles. En fait, il arrive souvent que des gens se croient supérieurs parce qu'ils croient quelque chose. Ils ont foi en quelque chose, alors qu'il n'existe aucun fondement rationnel à ce quoi ils croient. Le livre de Dan Brown, le Da Vinci Code, ce livre fournit une bonne illustration de cette compréhension de la foi. Sophie Neveu y dit au héros Robert Langdon: mais vous m'avez dit que le Nouveau Testament était fondé sur des choses inventées de toutes pièces. Et Langdon de répliquer: Sophie, toutes les fois du monde se fondent sur des choses inventées de toutes pièces. C'est la définition même de la foi, l'acceptation de ce que nous imaginons être vrai, de ce qui est impossible à prouver. Bien sûr, nous croyons à certaines choses dans la Sainte Bible, des choses qui sont données par révélation, mais qu'il est impossible de pouvoir prouver. Mais il y a d'autres choses auxquelles nous croyons, qui sont manifestées dans le cadre de l'histoire. Dans ces cas, eh bien, nous acceptons la véracité de ces affirmations de nature historique de la même manière que nous acceptons la véracité de n'importe quel fait de nature historique, à savoir au moyen du témoignage. Chers amis, la foi qui ne demande aucune preuve, qui ne se préoccupe nullement de savoir si Jésus est réellement ressuscité des morts, ça c'est une foi supérieure. Il suffit de croire qu'il est ressuscité des morts. C'est ce qui donne de l'authenticité à la foi, ce qui en fait une foi bénie, vraiment bénie de Dieu. J'ai même entendu d'éminents hommes d'Église déclarer que si l'on découvrait le tombeau de Jésus, ainsi que ses restes qui s'y trouvent encore, et qu'il n'y a aucun doute possible qu'il s'agit bel et bien de son corps, eh bien leur foi chrétienne ne serait nullement ébranlée, car après tout, Jésus est vraiment ressuscité dans leur cœur. C'est là toute la différence. Jésus est ressuscité dans leur cœur. L'apôtre Paul ne voit certainement pas les choses de cette façon. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il déclare que si Jésus n'est pas réellement ressuscité des morts, alors que vous croyez qu'il l'est vraiment, votre foi en Jésus est futile, vaine et sans valeur. En d'autres termes, l'une des choses qui valide la foi est précisément la véracité de son objet. Bien entendu, croire signifie bien plus que la simple acceptation de la véracité d'un fait. Après tout, les démons eux-mêmes croient que Jésus est ressuscité des morts, mais cette foi ne change absolument rien pour eux. Or, s'il est vrai que la foi qui sauve est plus qu'une simple acceptation de la vérité, elle n'est jamais moins que cela. C'est donc pour cette raison que l'Écriture sainte ne nous demande jamais de croire en quelque chose qui n'est pas vrai ou pourrait ne pas l'être. C'est aussi la raison pour laquelle, selon la Sainte Bible, l'exposition claire de la défense de la vérité compte au nombre des principaux moyens pour affermir la foi. Voyez-vous, une fois qu'on a réussi à écarter cette fausse interprétation de Saint Jean, chapitre 20, verset 29, la signification du verset devient manifeste. L'apôtre Jean lit intimement ce verset aux deux suivants. Suivant le fil de sa pensée, il rapporte que Jésus dit à son disciple « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Bien entendu, l'apôtre Jean enseigne depuis le début de son évangile qu'il est nécessaire pour quiconque de croire en Jésus afin d'avoir la vie éternelle. Plus tôt, dans le texte, nous lisons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean chapitre 3, verset 16. Il est donc merveilleux de voir que Thomas croit réellement. Mais Jésus sait, tout comme Saint Jean, que beaucoup de gens viendront à croire en lui sans même l'avoir vu comme Thomas l'a vu. Réellement, réellement ressuscité. Alléluia. Jésus va monter au ciel et jusqu'à son retour glorieux, il ne se présentera plus physiquement comme il l'a fait aux premiers disciples. Cependant, des multitudes innombrables de personnes vont croire qu'il est ressuscité des morts. Ces gens ne pourront jamais toucher les plaies comme Thomas fut invité à le faire. Ils ne verront jamais. Jamais ils verront Jésus ressuscité en train de manger du poisson sur les rives de la mer de Galilée comme les sept disciples qui sont décrits dans Saint Jean chapitre 21. Sur quelle base, alors, tous ces gens-là fondent-ils leur foi? Jésus dit que ceux qui ont cru sans avoir vu sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru sans avoir la preuve, sans avoir de preuve aucune. Évidemment, l'apôtre Jean, il poursuit en disant immédiatement que Jésus a fait encore beaucoup d'autres signes miraculeux et qu'il ne saurait être question de tous les rapporter. Mais ceux-ci, donc les signes qui sont rapportés dans son évangile, y compris l'apparition à Thomas, ceux-là sont écrits afin que les générations futures qui ne verront jamais les signes ni le corps ressuscité de Jésus, qu'ils puissent croire que Jésus est vraiment le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils aient la vie éternelle en son saint nom. Les documents écrits par la première génération de témoins constituent le moyen par lequel les croyants des générations futures ont accès aux témoignages historiques qui concernent le fait que Jésus est vraiment ressuscité. Ainsi, le témoignage de Thomas compte au nombre des éléments de preuve formels qui attestent la résurrection. Il a vu et il a cru. Et au moyen de son témoignage et de sa confession que rapporte ce livre, il témoigne encore. Et par la grâce de Dieu, il incite à la foi toutes les générations à venir. Toutes les générations à venir, lesquelles, à leur tour, imitent sa foi en se fondant uniquement sur le témoignage qu'il a rendu à la vérité. Comme Thomas, et à cause de lui, ces gens croient à leur tour. Ils reçoivent la vie éternelle et ils sont maintenant heureux. Thomas se révèle d'abord être un sceptique. Et puis, lorsque l'apparition du Seigneur Jésus lève ses doutes, il devient un adorateur à titre intensément personnel. Il fait maintenant partie d'une longue lignée de témoins qui appellent toutes les générations futures à la foi au Seigneur Jésus. L'apôtre Jean trace un parallèle intéressant entre l'apôtre Thomas et l'apôtre Pierre. En Saint Jean chapitre 21, nous lisons que Jésus restaure l'apôtre qui l'a renié. Il l'a renié à la foi, il le restaure à la foi dans sa relation avec lui et en vue d'une longue et fructueuse vie de témoin de la résurrection. En Saint Jean chapitre 20, nous avons Thomas et lui aussi restauré après avoir douté. Il est restauré après avoir douté, restauré non seulement dans sa foi, mais aussi en vue d'être dans les temps à venir, un témoin de la vérité, gloire à Dieu, un témoin de celui qui est la vérité. Sa confession et son témoignage nous parviennent dans les paroles des Saintes Écritures. Par les compassions de Dieu, des multitudes innombrables de personnes qui n'ont jamais vu Jésus ressuscité comme Thomas l'a vu, croient maintenant et sont bénis. C'est la fonction que remplit ce sceptique qui maintenant est vraiment converti, on peut bien le dire. Chers amis, notre étude d'aujourd'hui sera plus courte que d'habitude, mais rassurez-vous, les prochaines seront plus longues. Chers amis, dans un sens, il ne serait pas approprié de terminer ce chapitre en se contentant de parler de Thomas. En effet, bien qu'en surface, ces versets parlent certainement de lui, à un niveau plus profond, ils concernent en réalité essentiellement la personne de Jésus ressuscité. En fait, ce récit est enchâssé dans un livre que nous appelons un évangile. Plus précisément encore, il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Cet évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, est inextricablement lié à la personne et à l'œuvre de Jésus, à son règne et à sa croix, à sa mort et à sa résurrection. Et partout, absolument partout, ou à travers les siècles, que ce soit dans les temps bibliques ou depuis que des hommes et des femmes croient d'une foi authentique et véritable que Jésus est vraiment ressuscité des morts pour devenir Seigneur et Sauveur, complètement justifié par son Père Céleste, il découvre que cela change absolument tout. C'est l'une des grandes leçons que l'on tire de tous les récits de la résurrection. Oui, chers amis, elles étaient seules, elles qui s'en souvenaient, venues oindre le corps de leur bien-aimé, marchant, pleurant dans la nuit, venues honorer celui dont la mort leur a tout brisé. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui vit? Comme il l'avait prédit, il est ressuscité. Souvenez-vous qu'un jour il dit en Galilée, « Le Fils de l'homme doit mourir et puis doit ressusciter. » Ils entraient au pays perdu abasourdi, disant désemparé à l'étranger combien Jésus semblait roi avant la croix, espoir désormais mort et enterré. Vous êtes si lent à voir, il devait en être ainsi. Les prophètes l'ont écrit, ne pouvez-vous le croire? Le Christ devait souffrir, puis entrer dans sa gloire. Il prit le pain, le rompit, leurs yeux purent enfin le voir. Ils ne voulaient se contenter d'une foi aisée qui donne le ressenti pour vérité. Non, je ne croirai pas à moins que je ne voie, à moins de toucher la plaie dans son côté. Puis Jésus, il vient à eux, dans ce lieu clos, fermé. Amis, ne doute plus et mets ta main dans mon côté. Regarde, touche et vois mes mains sont transpercées. Comprends enfin que je suis la résurrection et la vie. Les années ont passé, la mort s'est acharnée, elle qui fait peur, qui vole nos bien-aimés, elle se rit de nos rêves, elle nous glace le sang, terreur ultime d'une vie s'éteignant. Mais je sais que mon Dieu s'est livré et l'a subi, son corps revêtu d'immortalité. L'aiguillon arraché, le péché neutralisé, la mort anéantie par la victoire du Messie. Amen. Et chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle, mais aussi pour votre enseignement personnel. Et après, nous prierons ensemble. Suivez le chemin de l'obéissance, car il mène au trône de Dieu. C'est au bout de ce chemin que se trouve pour vous le trésor que Jésus-Christ vous destine. Qu'il s'agisse du succès matériel destiné à favoriser le travail de son royaume, ou qu'il s'agisse de miracles spirituels cachés que Jésus ne révèle que à ceux qui cherchent avec persévérance. Il s'agit pour vous de marcher par l'obéissance d'un point donné, une promesse qu'il vous fait ou un ordre que Jésus vous donne jusqu'au suivant, et cela jusqu'à ce que enfin vous obteniez la victoire à laquelle vous aspirez. Votre activité pour le moment se situe au niveau des relations matérielles et le spirituel n'est là que pour aider le matériel. Quand vous aurez atteint le but sur le plan matériel, alors tout ce qui appartient à ce plan ne servira plus qu'à vous donner la maîtrise spirituelle. Gloire à Dieu. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur Dieu, que ta bonté soit sur nous comme nous nous sommes attendus à toi. Notre cœur se réjouit en toi parce que nous avons mis notre confiance en ton saint nom. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera. Qui ne te craindra et qui ne glorifiera ton saint nom? Oui, car tu es le seul saint, tu es seul digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles subsistent. Nous venons à toi pour implorer la continuation des faveurs que malgré notre indignité, tu ne cesses de répandre sur nous. Nous venons te confesser humblement nos fautes et nous nous reconnaissons coupables d'avoir en mille manières violé tes lois saintes. Seigneur, ne nous traite pas comme nous méritons d'être traités, mais prends pitié de nous et reçois-nous dans ta miséricorde pour l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur, et par l'offrande de son sacrifice. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et implorons aussi tes bénédictions sur tous ceux qui souffrent ou qui s'éloignent de toi. Que cet amour paraisse donc dans toute notre conduite, qu'il nous rend compatissants, dévoués aux intérêts d'autrui, indulgents et pleins de support et de patience. Car c'est à cela, a dit le Seigneur, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si l'amour fraternel animait un grand nombre d'âmes, eh bien l'aspect de l'humanité ne changerait-il pas? Ne verrait-on pas régner la paix, la charité et toutes les œuvres qu'elle produit? Prions donc du fond de nos cœurs pour que ce fruit de l'Esprit Saint naisse et puisse se développer en nous. Seigneur notre Dieu, ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Accorde-nous le sentiment de ta divine présence et garde-nous par ta puissance dès maintenant et à toujours. Amen. Et chers amis, maintenant, j'aimerais vous mettre quelques chants d'un lointain passé. Figurez-vous, 1962. Et évidemment, en ce temps-là, je devais enregistrer les chants que j'ai enregistré avec un appareil à bande qui s'appelait le Revox, parfois avec le Nagra de Kudelski. Mais bien entendu, étant donné que c'est plus d'un demi-siècle, le son, la qualité n'est plus la même, mais l'Esprit Saint, lui, reste le même. Alléluia. Alors je vous transmets quelques chants.
Safely on to thy kingdom shore. Lord, to thy shore, just a closer walk with thee. My plea, daily walking close to thee, let it be, dear Lord, let it.
At night.